Certains voudraient aujourd'hui voir dans les années 2010 un retour ou une récidive des années 30. D'autres préfèrent aller puiser beaucoup plus loin dans l'Antiquité, de quoi nourrir notre monde. C'est le cas de notre première invitée ce matin, helléniste, diplômée de l'Université de Milan. Elle est l'autrice d'un premier ouvrage traduit l'année dernière sur son amour pour le grec ancien. Un ouvrage qui est devenu rapidement un phénomène d'édition, vendu à, 200 000, 300 000 exemplaires en Italie, traduit dans 27 pays. Après La langue géniale, donc c'était le titre de ce premier ouvrage, elle publie La part du héros, dans lequel, tout en nous racontant le mythe des Argonautes, elle cherche à relever le niveau général, partageant avec Virginia Woolf l'idée que c'est aux Grecs que nous retournons lorsque nous sommes las de notre époque confuse. Bonjour Andrea Marcolongo.
Oui. Bonjour à vous.
Bienvenue ce matin. Vous comprenez très bien le français, mais vous le parlez un petit peu moins bien. Et c'est pour ça que nous avons fait appel à une interprète, Antonella Vignoli, que je salue. Bonjour Antonella, pour traduire simultanément vos propos. C'est ça, Andrea Marcolongo, l'idée de ce livre, La part du héros, c'est relever le niveau général parce que vous le trouvez faible et vous cherchez à le relever en allant chercher ce qu'on peut trouver de meilleur dans l'Antiquité.
Et proprio così.
Oui, en fait, c'est tout à fait comme ça.
Oh, libri sous le classico.
En fait, je n'écris pas quelque chose de classique où je veux en fait lancer un appel au présent. C'est-à-dire, où est-ce que nous voulons aller? Qu'est-ce que nous voulons être? Voulons-nous être au bord d'une toute petite bateau, quelque chose de rien, survivre, juste flotter, ou bien être dans un navire très grand, comme Argo, pour faire des choses grandes?
Mais vous trouvez qu'on a perdu un certain nombre de valeurs, on a perdu la faculté de nous émerveiller devant les beautés du monde, ou ça passe par un voyage dans le monde antique de retrouver ces valeurs?
Forse non abbiamo perduto
questi valori. Peut-être nous n'avons pas perdu ces valeurs.
Certo, sono tempi cinici questi.
Mais ce sont des temps cyniques où on mesure toujours à partir de l'utilité. On se demande toujours à quoi ça sert. Et donc j'ai choisi le mythe des Argonautes parce que il s'agit d'un mythe des merveilles, d'émerveillement. C'est le premier voyage qui ne part. C'est un voyage où on ne part pas pour une guerre, mais pour trouver quelque chose d'encore plus merveilleux. Un peu comme les couleurs de Paris ce matin.
Oui, c'est très beau, ce bleu. Ah d'ailleurs, le rose a disparu. Au moment où vous me dites ça, le rose a disparu. Juste, on va évidemment parler de ce mythe des Argonautes et de la part du héros, Andrea Marcolongo. Mais j'aimerais revenir d'abord à votre amour pour le grec et à ce qui a fait que vous êtes tombée dans cette marmite grecque assez tôt, assez jeune. Dites-nous ce que vous aimez tant chez les Grecs. Est-ce que c'est la langue, puisque dans le livre précédent, La langue géniale, vous nous donniez 9 bonnes raisons d'aimer le grec? C'est la langue ou c'est bien plus un rapport au temps particulier?
Sicuramente la lingua è stata.
La langue, sûrement, a été
la, prima ragione per cui mi sono
la première raison pour laquelle je suis tombée amoureuse du grec.
Per la situazione grammaticale, ogni lingua
pas tellement pour le côté grammatical, pour la vision du monde. En fait, le langage est une sorte de frontière dans notre monde. Et le monde grec a été et est spécial. Donc c'est leur vision du temps qui m'a vraiment captivée. C'est-à-dire comment les choses se produisent et pas quand, comment nous devenons et pas ce que nous sommes.
D'où cet appel au présent qui représente votre livre La part du héros, puisque ça n'est pas du tout un voyage dans le passé, mais c'est plutôt justement une volonté d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui et peut-être comprendre mieux comment nous projeter ensuite. Andrea Marcolongo, vous parlez de ce rapport au temps particulier qu'a été pour vous la découverte de la langue grecque, mais c'est aussi, dites-vous, un rapport particulier à la langue, au langage, aux mots et au sens des mots, puisque le grec vous a aidé à retrouver les mots. Vous avez un tatouage au poignet qui est recouvert aujourd'hui, qui a longtemps porté des mots « sansa parole ». sans mots. Et vous dites que c'est le grec qui vous a aidé à retrouver les mots. Donc ça va bien plus loin que simplement effectivement la grammaire, mais aussi le rapport au temps. Parlez-nous de ce sans parole qui s'est transformé.
Si, questo è veramente legato ai tempi
dell'università. Cela est un peu lié à... Lorsque j'étais étudiante, en fait, quand j'ai étudié lettres classiques à Milan, eh bien, cette puissance du langage, c'est très, il faut beaucoup de courage pour aller au-delà des conversations banales où on s'est dit oui, tout va bien. Et donc, en fait, le grec m'a appris, et la vision du monde grec, que les premières amies de nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. Seulement celui qui respecte soi-même peut respecter les autres, et donc le respect passe vraiment par nous-mêmes.
Vous pensez, Andrea Marcolongo, que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre, La langue géniale, a été un best-seller?
Adesso ripensandoci dopo quattro anni, quasi un milione di copie nel mondo,
presque un million de copie de livres vendus dans le monde. J'ai souri. En fait, c'est un voyage. Je voyage comme les argonautes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, personne ne me prenait au sérieux, me disait, mais où est-ce qu'une helléniste de 28 ans pense pouvoir aller? Et donc, cela était en fait une chance pour moi, parce que je ne subissais aucune pression. Personne ne m'a demandé d'être parfaite. Et donc, je pus mettre toute ma passion dans cette œuvre. Et certes, après le succès, il y a eu cette période de ce que j'appelle les sirènes contemporaines. J'ai failli me perdre, m'égarer, parce que je n'étais plus... J'étais devenue un cas littéraire.
Oui, et puis c'est aussi quelque chose, un succès qui vous a fait voyager dans le monde entier. Vous avez rencontré un succès considérable jusqu'en Amérique latine, en Colombie par exemple. Ça peut paraître surprenant que le grec voyage autant. Est-ce qu'il y a justement des pays qui vous ont plus étonné que d'autres, Andrea Marcolongo?
Je suis en train de partir pour la Colombie pour me rendre à la foire du livre. Mon livre vient d'être traduit en espagnol. Et c'est vrai que l'Amérique latine, ainsi que l'Asie, qui sont deux mondes opposés au nôtre, m'ont beaucoup étonné et m'ont permis de revenir vers cet état d'émerveillement dont on parlait tout à l'heure. En fait, parler d'Homère à des lecteurs qui n'avaient jamais lu cet auteur m'ont permis de retrouver cette pureté du grec. Je dirais qu'on s'est même compris mieux qu'ici, en Europe, où l'on dit toujours « oui, le grec représente nos racines culturelles », mais en fait, on se demande toujours « est-ce que la langue classique est utile ou pas ?» Alors qu'on ne se demande jamais si c'est utile de lire Proust ou Garcia Marquez. Et donc, disons que dans ces pays, j'ai pu me débarrasser de cette sorte de lourde poussière qui reste encore sous ces ouvrages.
Alors, vous parlez d'Homère, mais nous allons quitter Homère pour aller plutôt vers Apollonios de Rhodes, puisque c'est lui l'auteur des Argonautes. Et vous avez justement, Andrea Marcolongo, choisi plutôt le mythe des Argonautes, donc Jason et la Toison d'Or, que l'Iliade et l'Odyssée. Eh bien, on va écouter une petite lecture du mythe des Argonautes. C'est une archivina qui date de 1977 et c'est la voix de Claude Métra sur France Culture.
Pour accéder à la souveraineté, pour conquérir le royaume qui lui était à la naissance destiné et qu'un usurpateur lui a ravi, Jason doit aller à la conquête de la Toison d'Or. Sur la nef Argo, il s'en va avec ses compagnons vers les terres de Colchide où se trouve le bélier divin. Ainsi commence l'expédition des Argonautes.
Alors pourquoi ce mythe des Argonautes, écrit par l'Apollonios de Rhodes, Andrea Marcolongo, pour commencer, plutôt que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère?
tantissime le ragioni en per fait, cui ho scelto beaucoup de raisons. Ce mythe,
en fait, c'est le mythe le plus rivolutionnaire aujourd'hui.
Révolutionnaire.
Le mythe le plus ancien de la littérature grecque. En fait, Homère dit que c'est un mythe tellement connu qu'en fait, on n'a pas besoin de le raconter. Alors que moi, je pense qu'en 2019, c'est essentiel de connaître pas tellement l'histoire en soi de Zorgonautes, mais ce que c'est le mythe. En fait, il n'y a pas de bateau Argo dans les musées, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fable. Le mythe, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vérifié, mais qui est toujours là. Donc, je ne veux pas dire que quelqu'un un jour va monter à bord d'un navire Argo, mais nous tous, nous avons besoin d'aimer, de souffrir, de voyager. Et le voyage ne veut pas dire aventure. Ça ne veut pas dire je pars et on verra ce qui va se passer. Voyager veut dire je sais où je veux aller, je connais ma destination et je vais tout droit.
Et je largue les amarres. Le héros grec, Andrea Marcolongo, vous nous dites que c'est quelqu'un qui est capable de quitter ce qu'il a pour aller vers une terre inconnue. Il y a une part d'audace. Il part effectivement, Jason, avec ses valeureux marins sur ce premier navire, mais il va conquérir la Toison d'Or. Il ne sait pas nécessairement ce qu'il va trouver sur son voyage. Il ose le faire. C'est ça avant tout.
Assolutamente sì, questo,
oui, exactement. Et c'est pour ça que je dis que les Argonautes sont révolutionnaires. En fait, voyons tous les tabous d'aujourd'hui. Il y a le tabou de la solitude, mais chez les Argonautes, il n'y a pas les super-héros. Il y a des compagnons des voyages. Il n'y a pas de capitaine sur les navires Argo. Et donc, cette possibilité de naviguer sur la mer avant les Argonautes, on pensait que c'était impossible. Et il y a ce sens de communauté, d'essayer de montrer ce qui est inconnu aux autres, le rendre connu.
Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de se relever, voire, dites-vous, de se lever le matin pour chercher le bonheur. Il tombe amoureux, hein, Jason, quand il arrive dans cette île. Il tombe amoureux de Médée. Mais Médée est un personnage ambivalent. Médée est quelqu'un qui n'est pas resté dans l'histoire comme un personnage très clair. Médée, c'est quand même quelqu'un qui tue ses enfants. Comment expliquez-vous que, là vous le faites avant, hein, Andrea Marcolongo, la part du héros, c'est encore le temps de l'amour avec Jason, on n'a pas cette Médée qui viendra après. Mais elle est quand même bien présente dans la tête des lecteurs d'aujourd'hui.
Oui, même Apollonio, que pour moi était le premier Proust de l'histoire, car quand Apollonio écrit les Argonautes, eh bien, les Grecs connaissaient déjà la tragédie de Médée. Donc, lui sait très bien que, par exemple, quand Jason reprend les mêmes étapes d'Ulysse, la guerre de Troie ne s'est pas encore produite. Et si l'on pense à Médée, eh bien, Médée est un personnage ambivalent que j'aime beaucoup, surtout dans cette vision du mythe. En fait, d'un côté, nous avons le mythe et de l'autre, nous avons la tragédie, deux genres littéraires très différents. Ce n'est pas le suivi d'une histoire. La tragédie sert à la catharsis. Aller au théâtre, ce n'était pas un passe-temps du samedi après-midi. Il s'agissait de mettre en scène ce qui s'est produit lorsque le Medenagen, rien de trop, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse une certaine mesure et lorsqu'on est complètement submergé par les passions, alors que le dernier mot des Argonautes, c'est rempli de joie.
Oui, rempli de joie, rempli d'amour, être capable aussi de s'attacher à quelqu'un, surtout quelqu'un qui ne trahit pas, dites-vous, et quelqu'un qui ne se trahit pas. C'est la fidélité à soi-même qui fait le héros grec et qui fait, en l'occurrence, Jason, de Jason, un héros absolu pour vous, Andrea Marcolongo. Et c'est ça qu'on a peut-être perdu aujourd'hui, si on doit dire ce que le mythe, en quoi le mythe nous parle.
Oui, c'est comme ça, tout à fait. C'est pour ça qu'au début, je parlais d'un mythe révolutionnaire. La part du héros, je l'écris comme un appel au présent. Je pense que nous n'avons pas perdu cette capacité d'être des héros dans le sens grec, c'est-à-dire protagonistes, auteurs de nos vies, et non pas des figurants, responsables de ce qui s'est passe en tant qu'homme, femme, citoyen, sans dire toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Être des héros pour les Grecs, c'était une obligation pour vivre la vie avec dignité, avec plénitude. Et cette fidélité à soi-même veut dire aussi accepter ce que nous sommes. Nous sommes ici, dans ce monde, pour donner la meilleure version de nous-mêmes et pas la pire. Donc, il faut, comme disaient les poètes grecs, il faut des pensées élevées au lieu de regarder le bout de son propre nez.
Et dire que c'est le voyage qui compte et pas nécessairement le but, d'une certaine façon.
Le voyage est une métaphore, et donc c'est un mot que d'ailleurs en grec j'aime beaucoup.
Non,
il ne s'agit pas d'un voyage géographique, ça ne veut pas dire se déplacer du point A au point B. On peut voyager à l'intérieur de soi-même tout en restant immobile. Comme je disais, le voyage, ce n'est pas une aventure. Mais le voyage est une découverte de soi-même. Et je le dis toujours, il ne faut jamais être touriste en soi-même. Il faut vraiment nous découvrir, il faut nous connaître, il faut savoir où nous sommes en train d'aller. Je vois aujourd'hui beaucoup de confusion, beaucoup de rage partout. Et cela n'est pas voyager, cela veut dire qu'on s'est égaré.
Vous faites des voyages dans le temps, hein, des allers-retours permanents entre l'Antiquité et aujourd'hui. Pas vous, hein, dans le livre. Dans le livre, bien sûr, c'est aussi un récit personnel. Vous vous parlez de vous-même, vous parlez de nous citoyens, de nous êtres humains. Vous racontez aussi la nécessité de soigner nos angoisses, de vaincre nos peurs contemporaines. Justement, alors vous faites l'histoire de Sarah, par exemple, vers la fin du livre. L'histoire de Sarah, vous pouvez nous la raconter en quelques mots, vous souvenez de cette histoire?
Proprio così, perché di nuovo scrivere di mito non significa scrivere di passato, per questo parlo di presente.
Ce ne veut pas dire écrire sur le passé, c'est pour ça que je parle du présent. Et dans le livre, j'ai écrit d'une histoire que j'avais lue dans le New York Times il y a quelques années. Eh bien, c'est quelque chose qui peut se passer tous les jours. Sarah, c'est quelqu'un qui envoie un message à une amie. Et elle ne reçoit pas tout de suite la réponse. Peut-être l'ami n'était pas disponible. Et il y a toujours cette anxiété, ce sens d'anxiété qui nous ronge chaque jour. Et donc, Sarah décide de lancer un hashtag sur Twitter, et ce hashtag devient viral, qui me fait toujours penser à la grippe d'ailleurs, et tous répondent en disant nous aussi nous sommes très anxieux, mais en réalité Sarah était en anxiété avec soi-même, parce que à son amie n'avait jamais demandé comment tu vas, vraiment, comment vas-tu, ne lui avait jamais demandé.
Et voilà en quoi relire le mythe des Argonautes, en tout cas à travers la part du héros Andrea Marcolongo, permettrait peut-être ce voyage dans l'intimité à la découverte de soi, et permettrait peut-être de vaincre ces peurs contemporaines qui nous assaillent tous et chacun. Andrea Marcolongo est notre invité, auteur, autrice de La part du héros. Sous-titre, je ne l'ai pas encore donné, tiens, le mythe des Argonautes, ça, on en a parlé et le courage d'aimer. Nous en avons également parlé ensemble, un livre qui est apparu aux éditions des Belles Lettres. Mais d'une certaine façon, vous étiez prédestinée, Andrea, puisqu'en grec, Andreia, avec un i bien sûr, mais Andreia en grec signifie courage, si je ne m'abuse.
C'est proprio così, ora sorrido.
Oui, oui, c'est exactement comme ça.
En Italie,
en italien, en réalité, mon prénom vient de aner, qui signifie homme, mâle. Et ce n'est pas été si facile, hein, mon enfance, avec ce nom pour un garçon. Donc il m'a fallu beaucoup de courage pour le porter.
Vous avez écrit donc deux livres sur le grec, sur l'Antiquité, ce que les mythes font en nous et parlent, nous parlent, comment les mythes nous parlent aujourd'hui et restent contemporains. Mais vous avez également été la plume du président du Conseil italien pendant quelques années, Matteo Renzi, de 2012 à 2014. Est-ce que Andrea Marcolongo, pratiquer le grec aide à écrire des discours politiques? En tous les cas, vous l'avez aidé parce que vous avez réussi à le faire parler de Télémaque à Strasbourg en 2014. Donc en tout cas, lui, vous l'avez aidé à parler du grec. Mais est-ce que vous-même, dans l'écriture, ça, c'est quelque chose qui vous a permis de faire des allers-retours?
Assolument si, per questo, di nuovo.
Oui, oui, tout à fait.
C'est
pour ça que le classique, ce n'est pas quelque chose de vieux, ça ne veut pas dire parler de quelque chose d'il y a 3000 ans. Et c'est parfait pour parler du présent, pour nous poser des questions. On parlait tout à l'heure des élections européennes. Eh bien, c'était en 2014. Lorsque j'écris ce discours qui parlait justement de nos racines européennes, Télémaque est l'héros de la nostalgie. Et grâce à lui, j'ai appris ce qui veut dire nostalgie en grec. Ça ne veut pas dire regret, ça veut dire action. Et en fait, l'Odyssée commence avec le chant de Télémaque, qui est le fils d'Ulysse, et qui n'a jamais connu parce qu'il est parti pour Troie lorsque il était juste un enfant. Et donc, il était sur la plage et est en train de se plaindre. Comment faisons-nous nous tous les jours jusqu'au moment où arrive Terre, notre... Et qui nous dit, cela n'est pas le courage. Tu veux ton père, pars par la mer pour le retrouver. Et en fait, nous nous plaignons tous les jours et nous voulons en même temps nos racines européennes. Alors partons chercher ces racines.
En fait, ça donne de la force. On vous voit, vous tapez sous, tambourinez la table pendant que vous parlez. Là, on en vient d'entendre. Ça vous donne de la force, en fait, d'aller relire les mythes grecs. Pour aujourd'hui, hein, encore ça, on l'a bien entendu, mais... De l'action politique, finalement, même aussi.
Assolutamente si, tutta la littérature en général.
Parce que toute la littérature, en fait, pour moi, est de la politique. Aujourd'hui, nous avons un peu confondu la politique avec quelque chose d'ordinaire, d'administratif, qui doit s'occuper des routes, ou bien, comme en Italie, la politique est quelque chose de mauvais, qu'il faut supprimer, alors que toute action dans notre vie, c'est de la politique. C'est une vision du monde. Et donc oui, ça donne de la force de relire les classiques. Et surtout, je dirais qu'il nous donne une vision plus nette sur le monde contemporain.
Vous êtes italienne, Andrea Marcolongo, et vous parlez des élections européennes à venir. Vous avez choisi de vous installer depuis quelque temps dans la ville que vous qualifiez de la plus européenne de toutes. Vous vivez à Sarajevo. Pourquoi donc là-bas?
Vivo a Sarajevo da.
Je vis à Sarajevo depuis 5 ans.
Peraltro, si ricordava il 25 anni del genocidio in Rwanda.
En fait, on parlait de 25 ans du génocide au Rwanda et je voudrais rappeler que hier, c'était 27 ans depuis le siège de Sarajevo qui a duré 1425 jours. Et le siège, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les. Dans la terminologie de Moyen-Âge et pas dans notre terminologie. Je vis à Sarajevo et je n'écris que là-bas. C'est une ville qui m'a beaucoup aidé à vivre, comme disait Eschille, apprendre dans la souffrance. C'est Ça peut être observant de vivre entouré de cimetières. Nous avons éliminé dans notre vie l'idée de la mort. Alors que si nous vivons en contact constant avec la mort, eh bien, c'est une obligation à vivre au nom de celui, de ceux qui ne sont plus là.
En vous écoutant parler, Andrea Marcolongo, on comprend pourquoi vous avez choisi pour terminer comme musique ce Bella Ciao par Goran Bregovic, musicien de l'ex-Yougoslavie. On écoute.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato.
Goran Bregovic qui sera en concert le 18 mai à Mérignac et le 15 juin à La Française, puis en tournée tout cet été. Peut-être que si vous êtes encore en France, Andrea Marcolongo, vous pourrez aller le voir chanter en concert. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous parler de votre amour pour le grec, la part du héros, le mythe des Argonautes et le courage d'aimer. C'est un livre traduit par Béatrice Robert-Boissier et paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup et merci à Antonella Vignoli qui a assuré la traduction simultanée de vos propos.
Merci à vous.